certains, la répression des mouvements sociaux d'avril 2018 marque le basculement du régime nicaraguayen dans l'autoritarisme. C'est cette analyse que critique Matthias Schindler dans son livre « Nicaragua 1979-2019, du triomphe sandiniste à l'insurrection démocratique ». Rappelez-vous, en 1979, une révolution chasse du pouvoir Somoza, dont la famille régnait depuis les années 30, à un président si kleptocrate qu'il s'était aliéné une bonne partie de la bourgeoisie. Un nouveau régime, celui du Front Sandiniste de Libération Nationale, le FSLN, s'installe alors à Managua, promettant un socialisme à visage humain, respectueux de la démocratie. Et il tient en grande partie promesse, malgré la guerre que lui mènent les États-Unis par guérilla contre-révolutionnaire interposée. En 1990, le FSLN cède le pouvoir à une coalition conservatrice. Il ne le reconquiert qu'en 2007, là encore, à l'issue d'une élection démocratique. Mais cette traversée du désert n'en fut pas vraiment une, nous dit l'auteur. Un homme incarne à ses yeux la dégénérescence du sandinisme. Daniel Ortega, le révolutionnaire devenu l'une des plus grandes fortunes du pays. Comment ? Les jours précédant la transmission du pouvoir à l'opposition en 1990, la majorité parlementaire sandiniste a transféré un grand nombre de propriétés agricoles, de sociétés, d'immeubles et d'actions qui étaient propriétés de l'État à des personnes individuelles de confiance appartenant au FSLN, transformant la nomenclatura sandiniste en nouvelle fraction de la bourgeoisie nationale, notamment les 9 commandants historiques du FSLN que l'auteur compare à un caudillo à 9 têtes. Mais cet épisode peu glorieux, que l'on appelle au Nicaragua la piñata, ne fut que la conséquence de la dégénérescence de l'organisation sandiniste elle-même. Schindler rappelle le fonctionnement autoritaire du front et la faible autonomie dont jouissaient les organisations de base, ce qui favorisait la création d'une bureaucratie. Tout comme le fait que les permanents du parti étaient, dès les années 80, payés sur fonds publics. Corruption, népotisme, clientélisme, puis réforme constitutionnelle permettant à Ortega d'enchaîner les mandats et de conserver ainsi, avec sa clique, le pouvoir. Cependant, Ortega bénéficie encore d'un large soutien populaire, car il demeure pour beaucoup d'anciens celui qui a chassé Somoza du pouvoir et humilié les États-Unis comme Castro naguère. Il a également donné des gages à la hiérarchie catholique en faisant voter une loi interdisant l'avortement. Quant au big business, il sait qu'il peut faire des affaires au NICA. Bref, Ortega a su habilement élargir sa clientèle électorale à des fractions plus traditionnelles et conservatrices de la population. Et comme l'opposition de gauche est incapable de faire son unité, l'autocrate et son épouse, devenues vice-présidentes en 2016, n'ont pas d'adversaire à leur mesure. Jusqu'à quand ? Telle est la question qui se pose depuis le printemps 2018 et cette insurrection démocratique qui a vu le pouvoir tirer sur les manifestants, criminaliser les opposants et les faire bastonner par ses milices. Des centaines de morts, des centaines de prisonniers politiques et des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont fui à l'étranger les violences. Tel est le bilan de ce printemps sanglant. « Le pouvoir est maudit », clama un jour une célèbre communeuse. « La chèvre broute là où elle est attachée », nous disent les Camerounais. Pouvoir politique et économique se nourrissent l'un l'autre, puisque contrôler directement ou indirectement l'État permet aux élites d'accumuler du capital ou d'en gérer l'accès. Cet épisode nous le rappelle encore. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce livre, Matthias Schindler, Nicaragua 1979-2019, du triomphe sandiniste à l'insurrection démocratique, publié par Silex.